Et c'est la fin de ce bulletin d'information.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Égypte, un adolescent de 16 ans a été condamné à 5 ans de prison avec sursis après le suicide d'une lycéenne qu'il faisait chanter en publiant sur Internet des photomontages dénudés d'elle. Bazan de Khaled, 17 ans, qui vivait dans un village du nord du pays, avait mis fin à ses jours le 23 décembre 2021. Le jeune homme arrêté en janvier a commencé son chantage après que Bazan a refusé d'avoir des relations avec lui. Après la mort de l'adolescente, les médias locaux avaient publié sa lettre d'adieu à sa mère, lui suppliant de croire qu'il s'agissait de photomontages et disant qu'elle ne méritait pas une telle situation. Le procès de 5 autres personnes accusées d'avoir participé à cette affaire devrait avoir lieu le 10 mai. Selon la presse locale, une autre adolescente de 15 ans s'est suicidée en février pour des raisons similaires. Le nombre d'enfants ayant réussi à atteindre les côtes italiennes depuis la Tunisie en voyage clandestin a quadruplé en 2021 par rapport à 2017, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. À la mi-mars, il s'élevait à 2731 mineurs, dont 2076 non accompagnés. 75% de ces enfants sont originaires d'Afrique subsaharienne. Le nombre de femmes qui tentent la traversée de la Méditerranée est également en progression, avec 584 d'entre elles qui ont pu atteindre le sol italien depuis les côtes tunisiennes en 2021 contre 353 en 2020. Près de 1300 migrants sont morts en Méditerranée en 2021 selon l'ONU.
Parole de femme.
Madeleine Albright, de son nom de naissance Marijana Korbelova, a été la première femme secrétaire d'État américaine en 1997 dans l'administration Clinton, après avoir été représentante des États-Unis aux Nations Unies depuis 1993. Née à Prague, en ex-Tchécoslovaquie, en 1937, décédée le 23 mars 2022 à Washington, elle avait immigré aux États-Unis avec sa famille en 1948 et était devenue citoyenne américaine en 1957. Les États-Unis n'ont eu que 3 femmes secrétaires d'État sur 71 depuis Thomas Jefferson en 1789. Barack Obama, qui a décerné la médaille présidentielle de la liberté à Madeleine Albright en 2012, avait salué son courage et sa ténacité qui ont permis de ramener la paix dans les Balkans et ont ouvert la voie au progrès dans certains des lieux les plus instables du monde. Voici un extrait d'une interview qu'elle a donnée à la Maison Blanche après sa récompense.
Ce dont je suis vraiment fière dans ma vie professionnelle est ce que nous avons fait au Kosovo. J'étais très inquiète de ce qui se passait dans les Balkans et il m'était très difficile de voir les gens se faire tuer pour ce qu'ils étaient, pour leur appartenance religieuse plutôt que pour leurs actes. Et le fait d'avoir été en mesure de faire la différence avec les États-Unis là-bas, et je pense ce qui a été très important, et le Kosovo est maintenant un pays indépendant, et il y a une génération de petites filles dont le prénom est Madeleine. Alors je suis très fière de ce que les États-Unis ont fait dans les Balkans.
C'était l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, décédée le 23 mars 2022. Au Bénin, le monde de la transformation agroalimentaire se développe à pas de géant avec l'entrée dans le métier de nombreuses femmes, toutes déterminées à offrir le meilleur aux consommateurs béninois. Au nombre de celles-ci, il y a Euphrasie Dasundo Asogba, PDG d'AgroExpress, une entreprise spécialisée dans la transformation de légumes frais en purée qui emploie plus de 150 personnes. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé, dresse le portrait de cette femme d'entreprise qui ambitionne de commercialiser ses produits dans les pays africains et au-delà.
Depuis près d'une dizaine d'années, Euphrasie Dasundo Asogba met sur le marché béninois et étranger des produits frais transformés en purée pour les ménages et les restaurants. Partie avec moins de 50 000 francs CFA, elle se retrouve aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui prospère et qui apporte chaque jour des améliorations pour le bonheur des consommateurs.
Mon entreprise a démarré avec 30 000 francs en 2013 où je transformais essentiellement des tomates. Je crois que j'arrivais à transformer 6 ou 8 de tomates par jour, mais aujourd'hui notre unité a la possibilité de transformer une tonne de tomates par jour.
Avec plus de 150 employés, AgroExpress offre aujourd'hui une porte de sortie aux agriculteurs dans la réduction de façon significative des pertes de récolte en raison de la mévente et autres difficultés. Elle permet également aux produits locaux que sont la tomate, le piment, l'oignon et différentes sortes d'épices cultivées au Bénin de se retrouver sur divers marchés internationaux. Si aujourd'hui elle est devenue une entrepreneuse prospère et joue un rôle déterminant dans l'avenir de l'horticulture au Bénin, elle a dû affronter de nombreuses difficultés.
En termes d'entrepreneuriat, les débuts sont toujours compliqués. Pas mal d'obstacles, surtout par exemple pour l'écoulement des produits. Faire accepter le produit aux clients, les gens ne s'y intéressaient pas vraiment. Donc il a fallu beaucoup de persévérance pour arriver au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le soutien de la famille. De surtout mon mari et de quelques parents proches que je ne cite pas forcément qui m'ont aidé à tenir réellement le coup.
À un âge relativement jeune, elle contribue de façon significative à la sécurité alimentaire et au développement économique local. Aujourd'hui, Euphrasie Dasundo Asogba met ses connaissances au service des jeunes entrepreneurs qui désirent évoluer dans la transformation agroalimentaire.
J'ai commencé par me faire former dans la transformation proprement dite. Ensuite, j'ai suivi beaucoup de séances de coaching en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise, gestion du personnel, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être réellement polyvalent dans ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je ne délègue pas des tâches. Je peux dire toi fais ci, toi fais ça, mais c'est pas parce que je ne sais pas le faire que je dis aux gens de le faire. En dehors de ça, ces formations m'ont permis aujourd'hui de devenir formateur. Depuis 3 ans, l'État sollicite notre entreprise pour des formations dans le sens de la reconversion des jeunes.
Grâce à son engagement, Euphrasie Dasundo Asogba a acquis une réputation nationale et ses produits se retrouvent sur toutes les grandes surfaces et sont connus de tous. Elle a également encouragé de nombreuses femmes à se lancer dans le secteur de la transformation encore très masculin. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Fatih Walet Mohamed Issa, jeune réalisatrice malienne originaire du nord du pays, met en lumière la vie des femmes sahéliennes. À travers ses documentaires, elle espère sensibiliser sur le sort des filles exclues du système éducatif dans le Sahara. Pour la découvrir, un récit de Dilidico.
Issue de la région de Tombouctou, au nord du Mali, Fatih Walet, 24 ans, est l'une des 10 jeunes maliennes sélectionnées par l'ONG américaine Accountability Lab pour réaliser en 2021 des courts-métrages sur la condition féminine au Mali.
Donc, en général, le projet consiste à former 10 jeunes dames qui représentent plusieurs régions du Mali et avec des thèmes diversifiés. Des thèmes qui parlent des problèmes auxquels sont confrontées les communautés maliennes en général. Et l'idée derrière le projet, c'est aussi de donner la parole aux femmes, qu'elles puissent s'exprimer
Fatih souhaite montrer les difficultés vécues par les jeunes filles au Sahel et plus particulièrement dans les milieux nomades où l'éducation passe souvent au second plan. Elle s'exprime à travers sa caméra.
Le cinéma est un excellent moyen de sensibilisation sur les sujets qui constituent aujourd'hui les défis majeurs pour le Mali, particulièrement Tombouctou et la région.
Fatih explique que les défis auxquels font face les femmes maliennes sont vraiment nombreux.
En fait, tout ce qui concerne la femme est un problème chez nous. Parce que c'est des gens qui sont trop jugés par la communauté.
À travers son film, elle espère changer les mentalités et faire comprendre l'importance de l'éducation pour les filles.
J'ai fait ce film en espérant que cela va toucher notre communauté, en espérant que cela va changer leur avis par rapport aux jeunes filles et à leur éducation, et également à l'État, les autorités aussi. Je voulais, c'est une sorte de sensibilisation en fait. Je le fais sous forme de plaidoyer. Auprès de l'État, également auprès de la communauté, pour qu'ils prennent conscience de l'éducation de la fille et pour que l'État s'implique davantage.
Fatih Wallet ajoute qu'il y a beaucoup à faire pour faire évoluer la situation. Entre-temps, à Tombouctou, plusieurs projections de son documentaire sont prévues.
Au Cameroun, une association d'avocats a initié un plaidoyer pour vulgariser le principe de droit sur l'égalité entre l'homme et la femme en matière de jouissance des biens conjugaux. D'après un arrêt rendu par la Cour suprême du Cameroun, se référant à la Convention de 1979 sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, l'homme ne peut plus disposer à lui seul des biens de la communauté. Une disposition rarement appliquée en faveur des femmes au Cameroun. Emmanuel Juntap nous en dit plus.
L'égalité entre l'homme et la femme en matière de jouissance des droits dans le cadre conjugal a été entérinée au Cameroun il y a seulement 3 ans par un arrêt de la Cour suprême. Une découverte pour ces jeunes femmes mariées ou célibataires.
Le plus grand enseignement que j'ai pu capter, en fait, c'est que la loi internationale est au-dessus du code civil. Et qu'à partir de cette loi internationale, la femme jouit de tous ses droits dans un foyer. Elle est égale du genre à l'homme. Donc, tout droit sur les biens, sur la jouissance, sur l'acquisition d'un bien dans le foyer, la femme a son mot à dire.
En tant que femme, je suis vraiment rassurée de cette loi-là qui dit l'homme peut vendre avec l'autorisation de la femme et la femme peut aussi vendre avec l'autorisation de l'homme. Je sens et le soutien de la loi par rapport à la femme dans le foyer.
Aminatou n'a pas eu cette chance. Elle s'est séparée de son mari, ayant constaté que ce dernier était le seul à administrer les biens conjugaux.
Il a vendu le terrain, c'était pour lancer son commerce. Bon, un terrain qu'on a eu à travailler ensemble, puis à se battre pour en avoir acquérir. Il a vendu, il a disposé de l'argent comme il a pu. Bon, je n'ai rien vu, il ne m'a pas expliqué, oui. Il ne m'a pas expliqué. Donc j'ai constaté que le terrain a été vendu puisqu'on avait deux.
Et pourtant, c'est depuis 1994 que le Cameroun a ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes.
Nous avons pris la peine d'expliquer aux participants de reléguer les informations. Même dans le cadre de vos familles nucléaires, commencez déjà. C'est toujours un début parce qu'il faut de plus en plus vulgariser. Parce qu'il faut le rappeler, les femmes n'ont même pas connaissant de leurs droits véritables. C'est ça le véritable problème. Elles sont méconnaissantes, ignorantes de leurs dédits droits. Et du coup, lorsqu'il y a une innovation comme ça, ou bien lorsqu'il y a un rebondissement de la sorte, il faut absolument communiquer là-dessus.
Les avocates qui plaident pour l'application de la loi souhaitent voir la fin des situations d'injustice.
Beaucoup de problèmes se sont posés dans la gestion du patrimoine des couples. Et nous nous sommes souvent retrouvés devant des situations de détresse de femmes et d'enfants. Eh bien, les tribunaux également n'ont pas toujours eu la présence d'esprit ou des acteurs qui ont pu leur expliquer qu'il fallait faire usage de ces instruments. Du coup, ils ont dans un premier temps rendu des décisions qui étaient défavorables à la femme. Dieu merci, avec nos combats respectifs de sensibilisation, d'explication, de formation même de magistrats, de formation des acteurs de la justice, nous en sommes aujourd'hui à cette décision de la Cour suprême et bien d'autres qui ont prise en compte les traités ratifiés par le Cameroun.
Jusqu'ici, le mari pouvait administrer seul les biens de la communauté, les vendre, les aliéner et les hypothéquer sans le concours de la femme. Emmanuel Junta, VOA Afrique, Yaoundé.
Dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, la situation des prisonniers, notamment celle des femmes, est de plus en plus préoccupante. Elles disent avoir des difficultés à s'alimenter et sont exposées à diverses maladies. Le reportage de Zamen Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Dans la prison des Sake, une cité située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma, Brigitte Ndoole, mère de deux enfants, purge sa peine, mais sa santé se détériore en raison des mauvaises conditions de vie. La même situation est vécue à la prison centrale Mounzenze de la ville de Goma, où de nombreuses personnes attendent d'être fixées sur leur sort, dénonce Chantal Faïda, une ancienne militante de la Lucha, aujourd'hui actrice politique et militante des droits des femmes.
Il y a beaucoup de détenus et de prisonniers, c'est-à-dire des personnes qui sont en attente d'être fixées sur leur sort. Et ils sont même oubliés, ils sont incarcérés sans procès, sans jugement. Et c'est là pendant plusieurs mois, ce qui est inacceptable. Nous demandons aux magistrats de pouvoir faire diligence pour que chaque détenu soit fixé sur son sort par un procès juste.
Lucette Moulekia, une activiste des droits de l'homme de la ville de Goma, estime que toutes les prisons devraient être vidées pour permettre aux détenus, surtout les femmes, de vivre aisément.
C'est une situation qui nécessite une intervention d'urgence pour pouvoir décongestionner des prisons, mais aussi venir en aide de manière spécifique aux femmes, d'autant plus que la femme, de par sa nature, elle a des besoins spécifiques. Et déjà, dans ces conditions-là, elle est exposée à des maladies.
Lors de sa dernière visite à Goma, Amato Bayobasire, le vice-ministre congolais de la justice, a promis de lancer un programme d'amélioration des conditions de vie des prisonniers et de construire davantage de maisons d'arrêt.
Comme responsable, on ne peut pas ne pas voir cet établissement important. Et surtout que lors de notre dernier passage à l'Assemblée nationale, certains élus du Nord Kivu avaient demandé à Madame la ministre d'État de visiter la prison de Mounzenze à Goma. Pour reconnaître qu'il y a des choses à améliorer, les prisonniers doivent manger correctement, conformément à la volonté du président de la République. Nous devons construire de nouvelles prisons parce que dans certaines prisons, il y a des surpopulations.
Notons que la prison centrale de Mounzenze, qui a été construite pour accueillir environ 350 prisonniers, compte actuellement plus de 2887 détenus. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Au Sénégal, 90 jeunes issus de 15 pays africains ont suivi en mars dernier une formation au Centre régional de leadership Yali à Dakar. Ce programme américain a permis la formation de 20 000 jeunes depuis sa création par l'ancien président Barack Obama en vue de contribuer à doter l'Afrique d'une nouvelle génération de leaders. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay, nous en dit plus.
Business et entrepreneuriat, engagement citoyen, gestion des affaires publiques. Pendant 3 semaines, près d'une centaine de jeunes Africains ont reçu une formation intensive dans ces domaines. Pour eux, les échanges et enseignements ont permis d'avoir une vision plus complète du leadership et surtout de comprendre que seule l'union peut permettre le développement de l'Afrique. Costa Rita de Ceuta est une bénéficiaire venue de Sao Tomé.
Ça me fait comprendre que malgré le fait que nous sommes tous, chacun dans son pays, avec son environnement, avec sa culture et ses mœurs, mais les problématiques, nous, Africains, sont les mêmes. Cela veut dire que nous, en tant que jeunes leaders, en tant que jeunes Africains, si on travaille en réseau, c'est ça aussi la façon dont ici au Yali nous font comprendre qu'il faut travailler en réseau pour arriver à Nambour. Et quel est le but principal pour nous en tant que jeunes Africains? Que toute l'Afrique, elle soit développée.
Ces 90 jeunes leaders africains ont traité plusieurs problèmes et l'un des projets phares à porter sur l'éducation et la sensibilisation des jeunes élèves sur l'usage rationnel des réseaux sociaux. Un projet porté par Serigne Fallou Hatch, un jeune Sénégalais, fonctionnaire de police et enquêteur à la division spéciale de cybercriminalité.
Je ne vous l'apprends pas, les réseaux sociaux sont en train de faire des dégâts énormes sur la vie quotidienne des élèves et sur la vie des jeunes d'une manière générale. Donc ce projet a été réalisé en phase test au lycée Kennedy et dans l'immédiat, des effets ont été sentis parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont volontairement manifestés pour dire qu'ils sont victimes d'harcèlement, ils sont victimes de menaces sur les réseaux sociaux.
Au-delà de la formation, le Centre régional de leadership Yali Dakar accompagne et encourage ses alumni à partager leurs opportunités et projets avec d'autres jeunes, aux femmes et aux personnes issues des minorités. Binta Koudidé, chargé du recrutement au Centre régional de leadership Yali Dakar.
Il arrive qu'ils conçoivent des formations sur la base de ce qu'ils ont appris, mais plus adaptées aux cibles qu'ils rencontrent sur le terrain directement. Aujourd'hui, dans les stratégies du Centre régional de leadership Yali Dakar, on va accompagner les réseaux pays, qui sont des antennes dans chacun des pays, pour qu'ils forment d'autres jeunes, mais en masse. Et tout ce qui est contenu de formation et matériel pédagogique sera fourni par le centre. Donc nous espérons pouvoir atteindre une cible beaucoup plus large que les 4356 qu'on a déjà formés.
Au total, c'est plus de 20 000 jeunes leaders africains qui ont eu à bénéficier du programme Yali à travers des centres régionaux de formation en leadership installés à Dakar, Accra, Nairobi et Pretoria. C'est Dina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
On boucle LMF sur une rencontre avec deux étudiantes en agroéconomie burkinabé qui se sont lancées dans le maraîchage pour subvenir à leurs besoins. Elles partagent leur démarche au micro de notre correspondant au Burkina Faso, Lamine Traoré.
Nous sommes dans l'un des bas-fonds marécageux, sorti nord de Ouagadougou. Alice Ouedraogo et Madeleine Delma, deux jeunes étudiantes, 25 et 26 ans, sont à la tâche ici. Si elles ne sont pas dans les salles de cours, on les retrouve là. Elles font le maraîchage, le jardinage.
Le jardinage, en tout cas, à Ouagadougou, on en rencontre, mais pas des jeunes filles.
Alice Ouedraogo.
Maintenant, l'idée est venue suite à un constat. Parce qu'à l'école, chaque fois, on va manger le babena à midi. Les feuilles, il en manque. L'an passé, on a fait l'oignon et puis la tomate. Et ça a marché, mais pas trop. On a eu des problèmes d'eau. On s'est dit, pourquoi pas ne pas se lancer à fond dans la culture maraîchère. L'amarande, on fait l'amarande parce qu'on pense que l'amarande est rentable.
Et ce n'est pas aisé pour ces étudiantes d'allier les études et cette activité. Madeleine Delma.
C'est vraiment pas facile. Moi, on essaie de les coordonner. Souvent, c'est à nos heures de pause. Pendant que d'autres sont en train de rentrer ce jour pour manger, nous, on est là pour pouvoir arroser. Le soir aussi, quand on descend à 17h, pendant que d'autres sont en train de rentrer chez eux, nous, on est là encore. Souvent, on est les premières à venir au bas-fond, on est les dernières à partir. Et puis, quand on quitte ici, il faut aller chercher quelque chose à vendre pour pouvoir payer nos intrants, pour pouvoir assurer l'entretien de nos plantes. C'est vraiment pas facile, mais on s'adapte.
Ces jeunes étudiantes en agroéconomie pensent que les femmes doivent aussi se battre. Alice Ouedraogo.
Les femmes aussi sont des hommes, avec grand H. Qui dit femme doit se nourrir, l'autonomisation financière. Parce qu'il ne sert pas d'être femme juste pour le ménage à la maison. Voilà, il faut se battre encore pour ses enfants, pour soi-même et même pour son mari.
Madeleine Delma.
En tout cas, l'État fait des efforts, mais souvent c'est à nous aussi de faire des efforts pour montrer à l'État qu'on veut avancer.
Ces jeunes femmes veulent à la fin de leurs études agrandir leur activité. Elles rêvent grand. Elles invitent les femmes, chacune dans son domaine, à impacter pour le développement de sa communauté. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.